Naïma Moucho a quitté la Nouvelle-Calédonie la nuit dernière. Avant de quitter le territoire, la ministre des Outre-mer a publié un communiqué dans lequel elle indique que les partenaires favorables à l'accord de Bougival se sont accordés sur plusieurs points. Explication dès le début de ce journal. Le débat d'orientation budgétaire à l'ordre du jour du Conseil municipal du Mont-d'Or. Hier soir, pour 2026, la commune souhaite investir dans la sécurité, la vie citoyenne, l'attractivité économique et la reconstruction du lien social. Un homme menaçant armé d'un couteau, blessé par des tirs de policiers qui tentaient de l'interpeller. Les faits se sont produits à l'arrivée d'un train à la gare Montparnasse à Paris. Regain de tension entre la Chine et les États-Unis. La vente d'armes à Taïwan par l'administration Trump a provoqué la colère de Pékin, qui revendique toujours une souveraineté sur Taïwan. Et puis le sport et du football. Et l'AS Magenta qui va défier le FC Mulhouse cet après-midi pour le 7e tour de la Coupe de France. Les Nouméens vont tenter de rééditer l'exploit de 2010. L'ASM est le seul club calédonien à avoir passé une fois ce 7e tour de la Coupe de France. Bonjour, excellent week-end et soyez les bienvenus dans ce journal. Naïma Moucho a donc quitté la Nouvelle-Calédonie la nuit dernière au terme d'une visite de 5 jours sur le territoire. Elle s'est rendue, vous le savez, dans les 3 provinces, a effectué des visites de terrain et a eu des rendez-vous politiques. Avant de quitter la Nouvelle-Calédonie, la ministre des Outre-mer a publié un communiqué très bref dans lequel elle indique que les partenaires favorables à l'accord de Bougival se sont donc accordés sur plusieurs points. Le soutien à l'accord de Bougival, la tenue d'une consultation citoyenne anticipée, l'engagement à poursuivre des discussions relatives à la mise en œuvre de l'accord et notamment à apporter des éclaircissements nécessaires et le lancement d'un plan de relance à la hauteur des défis de la Nouvelle-Calédonie. Hier après-midi, aux dernières heures de sa visite, Naïma Moucho a d'abord reçu une délégation du FLNKS pour une discussion en bilatéral avant de réunir tous les autres groupes politiques favorables à l'accord de Bougival. Une rencontre positive, estime Virginie Rufnec, chef du groupe Rassemblement au Congrès.
Il y a un engagement sur Bougival de l'ensemble des forces signataires qui soutiennent l'accord et la ministre a constaté ce soutien au processus de Bougival. Par ailleurs, face au départ du FLNKS, de la table des discussions, l'ensemble des partenaires sont accordés à ce que les Calédoniens finalement puissent être consultés, qu'on leur donne aussi la parole sous la forme d'une consultation citoyenne anticipée, de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer et nous dire si nous continuons ce processus ou pas. Je pense que les Calédoniens sont les juges de paix de nos stratégies et puis des orientations que nous mettons en place. Donc c'est une bonne chose que de leur donner la parole. Bien sûr, des discussions continueront sur la mise en œuvre de l'accord lui-même. Mais surtout, ce qui était aussi important pour nous, c'est qu'elle annonce un vrai plan de relance pour la Nouvelle-Calédonie. Nous avons beaucoup insisté sur ce point. Il faut vraiment un accompagnement très puissant de l'État pour que nous puissions sortir la tête de l'eau et ne pas avoir des centaines et des centaines d'entreprises qui mettent encore clé sous la porte avec finalement la destruction des emplois pour de très nombreux Calédoniens. Donc ce plan de relance qui est annoncé par la ministre à son départ est bien assez fondamental.
L'une des nouveautés des discussions entre les partenaires politiques, c'est donc l'annonce d'une consultation citoyenne pour demander aux Calédoniens s'il faut poursuivre ou non le processus de Bougival. C'est une bonne idée, nous a dit Sonia Bacas, chef de file des loyalistes, qui a expliqué le but de cette consultation.
L'idée, c'est de consulter les Calédoniens avant le passage d'une loi constitutionnelle, de manière à ce que les parlementaires français, lorsqu'ils auront à s'exprimer au Congrès de Versailles, sache exactement quel est l'avis des Calédoniens sur l'accord de Bougival. L'idée, c'est aussi de dire, le FLNKS a été, je crois, entendu, mais il est arrivé avec pas de mandat, pas de proposition concrète de projet à part Kanaky. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui du FLNKS de trouver un accord. Donc l'idée, c'est de donner la parole aux Calédoniens pour que ce soit eux qui donnent leur avis sur le fait de savoir s'ils sont pour ou contre Bougival, avant même tout le processus de loi constitutionnelle du Parlement.
Et lors de cette réunion plénière, Naïma Moucho a confirmé, nous a dit Sonia Bacas, qu'elle souhaitait avancer sur le volet institutionnel, mais aussi sur le volet économique.
La ministre s'est aussi engagée à ce que cette consultation et le fait qu'on poursuive l'accord de Bougival et qu'on arrive à se mettre d'accord entraînent des conséquences sur le plan économique, puisqu'il doit y avoir un accompagnement massif de l'État pour permettre la reconstruction. On attend maintenant des actes parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces. On espère que les choses se traduiront concrètement. Et puis, en parallèle, les forces politiques continuent à travailler pour apporter aux Calédoniens les éclaircissements qui sont nécessaires pour s'exprimer sur l'accord de Bougival.
De son côté, le Palika, qui a confirmé hier avoir quitté le FLNKS, participait aussi à cette réunion plénière. Il reste encore des discussions à mener, nous a dit l'un des porte-parole du Palika, Jean-Pierre Jaiwe. Mais l'important, c'est d'avancer.
On s'est engagé à reprendre les discussions et puis à à revoir un certain nombre de sujets où il va falloir apporter des éclaircissements. Et puis, la ministre s'arrangera au niveau du gouvernement central pour faire en sorte à ce qu'il puisse, pour ne pas qu'il y ait de blocage, parce qu'on risque, s'il y a des problèmes avec la stabilité qu'il y a au niveau du gouvernement central, que l'accord de Bougival soit poursuivi dans sa mise en œuvre jusqu'à la fin, quoi. Nous, on est satisfaits. On a l'engagement comme quoi nous allons reprendre les discussions et des éclaircissements sur un certain nombre de sujets que nous avons apportés lors de notre bilatéral. Et donc, on est satisfaits de la discussion que nous avons eue là avec la ministre.
Oui, avant cette réunion plénière, Naïma Moutchou avait donc reçu une délégation du FLNKS. Dans un communiqué signé de Dominique Fauchy, le nouveau FLNKS revient sur cet échange et sur la première bilatérale qu'il avait eue mardi avec la ministre Michaëlle Genesky.
Le nouveau FLNKS, dont le positionnement n'a pas évolué, il précise avoir rappelé à Naïma Moutchou que le projet dit de Bougival ne saurait constituer une base de travail car il est contraire au processus de décolonisation et que toute tentative de passage en force sans le FLNKS risque d'entraîner le pays dans une situation d'instabilité durable. Le nouveau FLNKS indique que sa délégation a remis officiellement à la ministre un projet d'entente cadre destiné à constituer le socle des discussions futures. À l'issue de ces deux rencontres, le FLNKS prend acte des déclarations de la ministre et il déclare être disponible pour poursuivre le dialogue dans un cadre bilatéral sincère et respectueux. Fin de citation.
On en parlait il y a un instant, le palier qui quitte le FLNKS. La décision a été prise à l'unanimité lors du 50e congrès qui s'est tenu le week-end dernier à Athénée, à Bouraille, en présence d'environ 400 militants. Congrès qui marque un tournant. Le parti estime que la stratégie du FLNKS nouveau ne lui correspond pas. Charles Wachitil, l'un des porte-parole du Palika, était hier l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, émission qui est à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. J'ajoute qu'une autre composante du FLNKS réunit ce week-end son congrès. Les délégués et militants de l'UPM sont réunis jusqu'à demain à la tribune de Goyeta Ponérihouin. Au cœur des travaux, les discussions bien sûr sur l'avenir institutionnel, mais aussi, on l'imagine, un débat sur la volonté du parti de quitter ou non le FLNKS. Les élus du Mont-d'Or étaient réunis en conseil municipal hier soir. À l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire, l'occasion de faire un bilan de l'année 2025 pour aborder ensuite les prévisions pour 2026. Et sans surprise, le climat reste très incertain, Michael.
En 2025, la ville du Mont-d'Or a diminué ses dépenses pour faire face tant bien que mal à la perte de recettes. Plus précisément, ce sont 422 millions de francs en moins perçus entre 2019 et 2025, avec une chute drastique l'année dernière. La commune a donc dû ménager ses dépenses. Au niveau de son fonctionnement, des économies ont été réalisées, notamment sur les charges de personnel. Les contributions et subventions ont été réduites aussi de moitié, même concernant le SMTU ou le CIGN, et l'investissement limité aux opérations en cours de finalisation. Mais l'année 2025 aura également été marquée par les premiers versements de l'aide accordée par l'État. La ville du Mont-d'Or a reçu 154 millions de francs qui ont permis de redonner un peu de souffle à la collectivité. L'équipe municipale a tout de même maintenu les efforts budgétaires dans un environnement toujours incertain. Une gestion prudente comme elle le sera pour 2026. Lors du débat d'orientation budgétaire, l'équipe municipale a mis en avant quatre priorités pour la commune, à savoir la sécurité, l'attractivité économique, la vie citoyenne. Le maire Elisabeth Rivière a aussi mis l'accent sur la reconstruction du lien social.
Pour l'année 2026, nous avons été prudents, mais comme vous l'avez vu, il y a un sujet qui nous tient à cœur, c'est le lien social. Nous avons laissé en fait l'ensemble des montants à la Caisse des écoles, parce que la Caisse des écoles, c'est l'alimentation pour les enfants, c'est l'accompagnement des enfants et aussi au niveau du CCAS qui accompagne les populations en grande difficulté. Et aussi, notre monde associatif, nous avons décidé de ne pas toucher aux subventions qui leur sont octroyées parce qu'ils sont présents au quotidien, tous les week-ends, tous les soirs, pour accompagner l'ensemble de la population sur diverses activités. Et ils permettent toujours de maintenir ce lien social et de le redynamiser.
Concernant les dépenses d'investissement en vue des prochaines élections, la municipalité souhaite avant tout clôturer les opérations en cours, notamment finaliser les travaux sur le centre d'incendie et de secours, mais aussi la Darse du Vallon d'Or. Le débat d'orientation budgétaire s'est fait en réalité sans réel débat, même si les élus Génération Mont-d'Or ont voté contre. Et puis concernant les budgets 2025-2026, une décision modificative numéro 3 a été adoptée à la majorité. Elle concerne le versement de 136 millions de francs provenant du dispositif de solidarité républicaine. Une aide qui provient de l'État, comme l'explique le maire du Mont-d'Or, Elisabeth Rivière.
Alors oui, le dispositif de solidarité républicaine, c'est des financements qui ont été fléchés par l'État sur le prêt que la Nouvelle-Calédonie a fait. Et donc, l'État a décidé de flécher pour les communes une part de ces financements avec des actions précises, notamment pour répondre aux besoins des populations et des populations en difficulté, notamment sur le transport, sur les cantines avec l'alimentation et surtout le secteur de jeunesse. Ces secteurs sont aujourd'hui primordiaux. Beaucoup d'enfants ne mangent pas à leur faim et ces financements vont nous permettre encore eh bien, d'accompagner nos populations sur le premier trimestre déjà de l'année et sur le reste de l'année 2026.
Au cours de ce conseil municipal, les élus ont également adopté une délibération renouvelant la mise à disposition de l'ancienne école Adolphe Bouton au profit de la chambre de métier de l'artisanat.
Le vide-grenier du Rotary Club sur l'hippodrome Henri Millard se déroulait toute la matinée. Rendez-vous qui a attiré de très nombreuses personnes alors que cette opération servira à soutenir des associations. Ambiance à votre micro, Mickaël.
Un vide-grenier que je fais assez régulièrement parce qu'il est assez prisé. En termes d'organisation, c'est super, c'est parfait. Et c'est un petit vide-grenier, donc assez familial, assez convivial et donc ça nous plaît bien.
Je m'amuse, je m'ennuie des fois, je râle, ça rapporte de l'argent. Et puis voilà.
Toi aussi, tu as vendu des affaires aujourd'hui ?
Oui, ça me fait plaisir.
On cherche des avis pour lui ou même des jouets. Voilà, il a 9 mois et demi, donc on est très content.
Vraiment, ça fait plaisir. Et puis le bébé grandit tellement vite, donc c'est bonne occasion pour voilà.
Le bébé il grandit très vite, donc on a beaucoup beaucoup de choses et il faut faire de la place pour pouvoir acheter d'autres choses. L'avantage de venir ici, c'est que on peut faire des petits prix et les gens ça leur plaît, donc on est gagnant aussi sur ça. Quoi.
Un événement qui se déroulait toute la matinée donc sur l'hippodrome Henri Millard à Nouméa cette année, l'argent sera reversé pour aider l'association Valentin Aoui qui accompagne les malvoyants et non-voyants. Le concessionnaire Dacia organise une journée événementielle pour l'arrivée de son nouveau modèle de Duster. Les fans de la marque sont invités tout au long de la journée sur le parking Renault Dacia du 4e kilomètre à Nouméa, Mickaël.
Voir le véhicule de ses propres yeux, l'essayer et même le réserver avec des offres exclusives. Il faut dire que le Duster compte parmi les produits phares de Dacia et s'est fait un nom auprès des automobilistes calédoniens. SUV le plus vendu sur les 15 dernières années en Nouvelle-Calédonie avec près de 6500 véhicules. Un an après les émeutes, c'est aussi une petite victoire de pouvoir convier le grand public à ses portes ouvertes depuis hier et jusqu'à ce soir pour découvrir cet arrivage de nouveaux modèles. Le nouveau Duster a surtout tous les arguments pour plaire, selon Sabrina Elmaré, directrice commerciale de Renault Dacia.
Dacia est une marque appréciée et même aimée par de nombreux Calédoniens. C'est un véhicule qui est très bien vendu en Nouvelle-Calédonie. On a beaucoup de monde qui sont déjà passés depuis ce matin. Ravi, l'accueil est incroyable. Le public adore le nouveau Duster partout dans le monde, c'est déjà le cas. Mais alors, en Nouvelle-Calédonie encore plus, il est robuste, son design est complètement renouvelé. Les couleurs sont sensationnelles. On a du nu, du kaki, du gris, du blanc. Il y en a pour tous les goûts et à moindre coût.
Les caractéristiques moteur.
On y retrouve en effet beaucoup de motorisations différentes. On a du 1,5 litre diesel 115 chevaux, du 1,6 litre hybride à 3,95 millions d'ailleurs, un des véhicules les plus compétitifs du marché. Le moteur ne fait très peu de bruit.
C'est le confort également.
Oui, le confort, la conduite qui est hyper souple, la réactivité, tout est très agréable, tout est pensé. On a des accessoires hyper modernes et sympas, donc qu'on soit conducteur ou passager, et même à l'arrière, on a de l'espace. Duster s'adapte à tout. Le slogan d'ailleurs de Duster, c'est pour les gens vrais, et nos clients sont des gens vrais.
Sabrina Elmaré, directrice commerciale de Renault Dacia. Pour découvrir le nouveau Duster, vous pouvez vous rendre chez le concessionnaire, donc Renault Dacia, à Nouméa au 4e kilomètre jusqu'à 17h. Sinon quoi, toutes les infos pratiques, les caractéristiques techniques et les options, et bien d'autres détails encore, sont à retrouver sur place ou sur le site internet ou la page Facebook encore bord du groupe Jandot et Dacia.
Un événement exceptionnel hier soir proposé par le Maridé à l'occasion des 160 ans du phare Amédée. 160 Calédoniens ont eu la chance d'observer les illuminations du phare depuis la mer à bord du Maridé 7 et même directement depuis l'îlot. Le rendez-vous était donné à 17h à Port-Moselle et après 45 minutes de navigation, tous les passagers étaient sans voix, enfin presque.
Mesdames et messieurs, bonsoir, nous arrivons au phare Amédée dans quelques instants. N'hésitez pas à bien profiter des lumières du phare et ainsi que la plage.
Pour l'instant, là, je suis sur le ponton et là, je vois un requin juste à côté et qui est posé, tout comme moi. Et en attendant que le phare s'allume, justement.
Une soirée magnifique.
Voilà, exactement. Franchement magnifique et assez unique, en fait, en vrai. Non, franchement génial.
Trop belle, la tortue.
Et il y a son petit peu.
Il y a le rémora.
Il a marqué
1862.
5.
Ah oui. Ah oui, parce que je regardais en bas là.
C'est les 160 ans du coup du
oui,
phare.
C'est une... Ouais, c'est magnifique. C'est super. Hein, oui, c'est une super initiative.
Sarah.
Et raconte-moi, qu'est-ce que tu vois depuis tout à l'heure?
Le phare qui est éclairé.
Et alors, c'est comment?
Très bien.
C'est magnifique, ça change. On y vient comme ça le week-end, mais en fin de compte, le soir, faudrait le faire plus souvent parce que c'est vraiment sympa.
C'est super joli. Super joli. Ces couleurs, c'est magnifique.
Vous estimez chanceux, j'imagine, d'être là?
Oui, oui, oui. C'est, je suis en vacances, là, donc première fois découverte. C'est très beau. Très beau.
Allez, c'est l'heure du retour. Embarquement immédiat.
À propos recueilli hier soir par Léo Fichou. Du côté de La Foy, la commune célébrera ce soir ses 30 ans de jumelage avec la ville japonaise de Turioka. Une visioconférence avec la ville est programmée à 16h au centre socioculturel de La Foy. Les curieux pourront également découvrir une rétrospective des échanges culturels effectués depuis 1995, des chants japonais et une danse des chapeaux. Écoutez Florence Roland, le maire de La Foy.
On reçoit la consul du Japon pour les 30 ans de jumelage avec la commune de Turioka au Japon. C'est l'occasion pour nous de mettre en lumière les collégiens de l'époque qui ont pu partir sur Turioka et faire des échanges avec d'autres gamins de Turioka. C'est l'occasion aussi d'avoir un échange avec le maire de Turioka puisque avec la période Covid, avec la période des émeutes, c'est un jumelage qu'on a eu des difficultés à entretenir. Donc on a pu garder le lien bien évidemment au travers de visio, au travers d'échanges épistolaires aussi. Et donc là c'est l'occasion de faire un petit peu différemment hein, puisqu'on ne pourra pas y aller cette année ni l'année prochaine avec les contraintes budgétaires, bien évidemment, mais de marquer le coup. Et donc, on aura aussi des préparations culinaires japonaises qui seront mises à l'honneur. Donc, on vous donne rendez-vous au centre socioculturel pour ceux qui sont intéressés par le Japon.
Et les 30 ans de jumelage avec la ville japonaise de Turioka, c'est donc cet après-midi à partir de 16h au centre socioculturel de La Foy. L'entrée est gratuite. Il est midi et 20 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal à suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
C'est la fête chez Auchan Kéferi et Auchan Auteuil. Du 3 au 30 novembre, on célèbre nos 2 ans avec un grand jeu anniversaire. 3 millions de francs de cadeaux à gagner et un super caddie surprise de 55 000 francs chaque jour et par magasin. Et en plus, profitez de bons d'achat, de remises en cagnotage et de prix promo tout le mois. Auchan Kéferi et Auchan Auteuil, 2 ans et toujours plus pour vous.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Jusqu'au 12 décembre, gagnez un séjour dépaysant au Malibu Beach. Logez 5 nuits en bungalow jardin avec vue mer, petit déjeuner et dîner pour deux personnes. Profitez de la mer avec les kayaks mis à votre disposition, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 119 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance. Au 40-20, le Malibu Beach vous accueille toute l'année dans un cadre idéal pour se ressourcer et s'évader, en couple ou en famille. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20, tirage au sort le vendredi 12 décembre à 14h, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec vous, Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole et cette question, que s'est-il passé gare Montparnasse à Paris? Un homme menaçant armé d'un couteau a été blessé par des tirs de policiers qui tentaient de l'interpeller. Des faits qui se sont produits à l'arrivée d'un train. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une par le parquet de Paris pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre par l'IGPN, la police des polices. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Il est environ 14h30 lorsque les policiers repèrent un homme recherché depuis plusieurs jours, Fabien Boguet, délégué Paris du syndicat Alliance.
L'individu était à bord du train Rennes-Paris et lors de son arrivée en gare Montparnasse, le dispositif policier mis en place a permis de rapidement le repérer et au moment de son interpellation, l'individu a tenté de prendre la fuite, se retrouvant coincé. Il a sorti un couteau.
Le suspect menace plusieurs voyageurs autour de lui et se poignarde au niveau de la gorge à plusieurs reprises. Les policiers sortent alors leurs armes.
Un coup de feu au minimum aurait été tiré, ce qui l'aurait touché au niveau des membres inférieurs et ce qui aurait permis sa neutralisation rapide.
Selon les informations d'Europe 1, les tirs des policiers font une victime collatérale, un homme de 53 ans touché au pied mais sans pronostic vital engagé. Quant aux mises en cause, il s'agit d'un homme de 44 ans, originaire des îles Wallis et Futuna. Il est connu de la police pour des faits de violence conjugale. Actuellement à l'hôpital, le pronostic vital du suspect est engagé.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1, libéré avant-hier et soigné dans un hôpital berlinois, Boualem Sansal a commencé à s'exprimer. Il a une pêche terrible et rayonne de bonheur, a précisé Noël Lenoir, la présidente de son comité de soutien. Grand ami de Boualem Sansal, l'écrivain Kamel Daoud a aussi pu s'entretenir avec lui par téléphone. Un échange retranscrit dans les colonnes du Point. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Je suis costaud, tu sais, je ne vais pas être détruit par une petite année de prison. Les premiers mots de Boualem Sansal quand Kamel Daoud lui demande comment il va. L'écrivain parle de la France qu'il aimerait retrouver aujourd'hui, peut-être demain, mais le côté politique passe avant, dit-il. Il évoque aussi sa détention presque à l'isolement, lui à qui l'on empêche de parler aux autres détenus. Mais ce que tu as pu lire, lui demande Kamel Daoud. Lire, c'est interdit, répond-il. Des livres de religion ou en arabe, voilà tout ce qu'il y a là-bas. Il raconte aussi ses derniers jours en Algérie, d'une prison à une autre, puis son transfert à l'hôpital où un visiteur nocturne, ce sont ses mots, lui demande de mettre de l'eau dans son vin. Si je n'ai pas le droit de parler, alors qu'est-ce que je fais sur Terre? Lui répond du tac au tac Boualem Sansal. Sur son état de santé, l'écrivain est toujours hospitalisé à Berlin. L'ambassadeur de France en Allemagne, François Delattre, l'a rencontré hier.
Je trouve qu'il a bon moral et pour autant que je puisse en juger, il m'est apparu physiquement dans une condition aussi satisfaisante que possible, compte tenu des conditions, et après une année difficile.
Et Boualem Sansal n'est plus seul en Allemagne, il a retrouvé sa femme hier soir. Berlin, Wilfried de Villers, Europe 1.
L'actualité à l'étranger avec ce regain de tension entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a approuvé la première vente d'armes à Taïwan depuis son retour à la Maison-Blanche, ce qui a provoqué la colère de Pékin. La Chine qui revendique toujours une souveraineté sur Taïwan et menace depuis plusieurs mois d'utiliser la force pour récupérer l'île. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Deux semaines seulement après sa rencontre avec Xi Jinping, durant laquelle plusieurs accords économiques avaient été conclus, le président américain semble déjà vouloir reprendre l'avantage sur Pékin. Comme souvent sur la scène internationale, Donald Trump joue avec cette livraison d'armes la carte de l'imprévisibilité calculée, comme le souligne Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Dans une relation difficile avec Xi Jinping, on voit que Trump peut alterner le chaud et le froid, le chaud étant « c'est mon meilleur camarade et on fait des affaires ensemble ». Et le choix étant, si on n'arrive pas à s'entendre, eh bien les États-Unis vont reprendre les ventes d'armes à Taïwan.
Un approvisionnement qui n'a pourtant rien de surprenant, comme le rappelle Valérie Niquet.
Taïwan a besoin des armes américaines, puisque aucun autre pays n'accepte de lui en vendre. Ça fait partie d'ailleurs d'un texte de loi aux États-Unis, fournir à Taïwan les capacités de se défendre face à la Chine, adopté par le Congrès dès 1979.
La Chine avertit de son côté que la question de Taïwan constitue une ligne rouge rouge dans les relations sino-américaines.
Antoine Biavaud du service international d'Europe 1. À l'étranger, toujours 4 personnes ont été tuées à Kiev en Ukraine après une nouvelle attaque massive de missiles et de drones russes. Volodymyr Zelensky évoque des dizaines d'immeubles résidentiels endommagés. Le président ukrainien qui sera reçu lundi à l'Elysée. L'actualité dans la région Pacifique avec le premier ministre fidjien Sitivini Rambuka qui était à Tokyo où il a rencontré sa nouvelle homologue japonaise. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Sitivini Rambuka a d'emblée remercié le Japon pour son amitié de longue date et a félicité Sanae Takaishi pour la nomination historique qui a fait d'elle la première femme à gouverner l'Empire du Soleil Levant. Les deux dirigeants politiques ont aussi profité de leur rencontre pour réaffirmer leur engagement commun, je cite, « en faveur de la paix, de la stabilité, du développement dans le Pacifique et promouvoir ensemble un Indo-Pacifique libre et ouvert ». Ils ont également signé un communiqué conjoint qui ouvre la voie à une coopération renforcée dans de nombreux domaines. Ce partenariat, a estimé Sitivini Rambuka, vise à consolider les liens étroits qui unissent nos deux pays et à bâtir ensemble un avenir prospère. Le Japon entend progresser main dans la main avec les îles Fidji, a déclaré quant à elle Sanae Takaishi. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
L'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier à l'unanimité, les auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que 10 ans après les attentats du 13 novembre, la menace du terrorisme islamiste est toujours aussi importante en France. Merci de votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Midi 28, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Virus, bactéries, stop. Depuis 20 ans, le spray assainissant pur essentiel purifie l'air intérieur tout naturellement. À la maison, au travail, partout avec vous, faites confiance à la force de sa formule brevetée pour éliminer virus, bactéries et limiter les sources d'épidémie. 21 études scientifiques prouvent son efficacité et sa parfaite tolérance. Numéro 1 en pharmacie. Pur essentiel, 20 ans d'efficacité à l'état pur. En ce moment, 20 séjours exceptionnels à gagner à l'achat d'un spray assainissant 20 ans. Date et règlement sur puressentiel.com.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est midi 29, la suite du journal avec l'actualité sportive.
Et on va parler football, et c'est toujours l'un des grands rendez-vous de l'année, hein, quand le vainqueur de la Coupe de Calédonie dispute le 7e tour de la Coupe de France. Cet après-midi, l'AS Magenta tentera une nouvelle fois sa chance contre le FC Mulhouse, Michael Geneschi.
Oui, l'AS Magenta qui, on le répète quasiment chaque année, est le seul club de Nouvelle-Calédonie à avoir passé ce 7e tour de la Coupe de France. C'était en 2010 contre Dunkerque. Le parcours des Calédoniens avait ensuite été stoppé par le Paris FC au tour suivant. L'équipe aimerait bien réitérer cet exploit, cette fois donc contre le FC Mulhouse, pensionnaire de National 3. Écoutez, le coach de l'AS Magenta, Pierre Wadjoka.
Il faut être combatif, il faut être compétitif, il faut, quand on fait de la compétition, il faut avoir un état d'esprit de vainqueur, c'est sûr. Pour passer, c'est un match à couper, il n'y a pas de rattrapage. Et oui, c'est sûr. Et puis, les joueurs, ils sont prêts. Jouer ce genre de match, c'est ce qu'on attend toute l'année.
Un coup d'envoi de la rencontre à 15h cet après-midi au stade Nouma Dele, un engouement qui dépasse les frontières de la Calédonie puisque le match sera aussi retransmis en métropole directement au stade de Mulhouse.
Quelques résultats avec la méga rando 2025, épreuve de VTT organisée à Bouraille sur le domaine de Deva. Notez la victoire qui est revenue ce matin à David Esposito qui a devancé Olivier Bertolon et Chris Jenner. La meilleure féminine, Caroline Favier, a terminé 15e au classement scratch. Plus de 700 participants étaient au rendez-vous. Du cricket également ce week-end avec la Coupe de Calédonie au stade Ndu et demi-finale hommes et dames ont eu lieu ce matin. Chez les messieurs, Berumas s'est imposé en deux tapés et arrêt des arbitres 93-92. Le deuxième match entre l'ASK qui s'est imposé sur Kiwinye en deux tapés 92-89. Chez les dames, JSO s'est imposé sur Koné 144-52 en deux tapés. Et Wedromel s'est imposé face à Kounye en deux tapés et arrêt des arbitres 99-98. Les finales auront lieu demain, toujours au stade Ndu. Du sport en métropole et dans le monde et sur les terrains de rugby, Mickaël, nouveau week-end test match, le 15 de France fera face aux Fidjiens, ce sera demain matin.
Oui, une semaine après la défaite contre les Springboks, 32-17, les Bleus doivent se remobiliser. Les Calédoniens Romain Taofifénoa et Rodrigue Netti seront sur le banc des remplaçants. Match à suivre dès 7h10. D'autres affiches, l'Irlande qui fera face à l'Australie, le Pays de Galles qui croisera le fer avec le Japon, l'Italie qui fera face à l'Afrique du Sud et l'Angleterre qui retrouvera les All Blacks. Lundi matin, l'Écosse affrontera les Pumas argentins.
Et puis quelques mots de tennis avec le Masters de Turin. On connaît les affiches du dernier carré.
Ouais, la perspective de plus en plus certaine d'un duel au sommet pour terminer l'année entre l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial, et l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2. Yannick Sinner qui a battu l'Américain Ben Shelton 6-3, 7-6 pour rester invaincu dans son groupe. Yannick Sinner qui affrontera en demi-finale l'Australien Alex De Minaur. Pour Alcaraz, également invaincu dans son groupe, ce sera le Canadien Félix Auger-Aliassime, tombeur aujourd'hui de l'Allemand Alexander Zverev.
Merci Mickaël, il est midi 32 minutes, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Il sera disponible dans quelques instants sur notre site internet, le www.rrb.nc. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi, un très bon week-end sur RRB bien sûr. On se retrouve à 13h pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.